Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on n'a pas de quart d'heure savoyard ici en Savoie, je prends quand même la parole quelques secondes, le temps aux retardataires de prendre place. En tout cas, bienvenue à la Galerie Eureka. Au nom de toute l'équipe, eh ben, permettez-moi de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Pour ce premier rendez-vous entre midi et science de l'année, nous souhaitions revenir sur un sujet qui a marqué l'actualité, surtout de l'année dernière. On en parle un petit peu moins cette année parce qu'on a d'autres sujets sensibles. On voulait, alors si je vous fais une petite piqûre de rappel, puisque justement ce sujet-là était lié à la vaccination contre la Covid, et beaucoup ont découvert l'existence de l'ARN messager. Source d'espoir pour certains, source d'angoisse, voire de contestation pour d'autres. Et donc nous avons voulu, avec un an de recul, revenir sur ce sujet-là, nous questionner justement sur qu'est-ce que l'ARN messager. Finalement, c'était, je pense, que la question que les médias ont malheureusement très peu traitée. Et donc voilà, pour en parler, eh bien, j'ai le grand honneur d'inviter à la fois le directeur, donc mon homologue, le directeur de la Turbine, donc le Centre de Culture Scientifique d'Annecy, mais qui vient avec une autre casquette aujourd'hui, celui de chercheur en chimie moléculaire. Donc, bienvenue parmi nous. Et donc, tu as une heure, c'est le principe, le concept, mais moins d'une heure maintenant, parce que j'en ai volé deux. Donc l'idée, c'est un café débat, c'est d'échanger au maximum avec le public, de répondre à nos questions, à nos attentes. Le format classique, c'est une demi-heure de présentation, une demi-heure d'échange, mais je pense que tu nous proposes un autre format. Donc tu as carte blanche. Simplement, moi je passerai dans la salle avec le micro, c'est un peu le bâton de parole, comme ça ne parle que celui qui peut parler dans le micro, d'autant plus que c'est enregistré et vous pourrez retrouver ce café débat sur le... sur notre réseau social Écosciences. Donc, vous avez tous les éléments. Voilà, tout le monde est arrivé. Et ben, Guillaume Stahl, est-ce que j'ai dit ton nom de famille? Je ne me rappelle même plus. Donc, Guillaume, c'est à toi. On a jusqu'à 13h30, pas une minute de plus. Merci.
Merci Jean-Yves pour cette introduction. Merci à toute l'équipe de la Galerie Eureka qui nous accueille toujours en voisin. C'est vraiment très sympa. Je suis très impressionné par toute cette présence. Moi, je me suis dit, l'ARN messager, maintenant, c'est bon, tout le monde connaît, ça ne nous intéresse plus. Je suis ravi que vous soyez venus en nombre. Et effectivement, donc, le format, je ne sais pas si vous êtes tous des habitués, mais le format, en fait, je vous propose un nouveau format, ça s'appelle l'improvisation. Voilà, on va faire comme ça. Et puis, en plus, on me dit que c'est gratuit, c'est entre midi et science, c'est gratuit. Donc, en fait, je vais vous faire travailler, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de raison. Hein. Moi, je ne suis pas payé non plus, là. Donc on va travailler ensemble, on va co-construire. Non, on va, voilà, je vous propose effectivement. Je suis désolé, ça sera voilà façon Guillaume Stahl, c'est un peu dans l'impro, vous faire travailler et puis surtout au fur et à mesure, posez-moi des questions, levez la main et puis on va y travailler. Hein, et puis Jean-Yves se précipitera pour vous donner la parole. Je ne sais pas si ce que j'aurais voulu faire tout au début, c'est vous demander un peu pour vous ce que ça veut dire ARN messager. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Yves? Toi, tu vas. Voilà. Tu parles bien dans le micro, s'il te plaît, Jean-Yves.
Oui, monsieur.
Donc on va commencer comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une sorte de nuage de mots et voir qu'est-ce que ça vous évoque, ARN messager. Qui peut me dire quelque chose sur l'ARN messager? Qu'est-ce que ça évoque? Alors il y a pas de. C'est juste pour savoir voilà où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on va mettre en commun et qu'est-ce qu'on va réutiliser derrière. Donc je vous écoute. Je vous fais bosser. Oui.
Les mots, cellules, messages, transporteurs, voilà.
Ok, parfait, on commence par ce qu'il faut, c'est parfait. Cellules, messages et transporteurs. Oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous me proposez? Protéines, mais oui. Vous pouvez développer, hein, vous n'êtes pas obligé de donner juste un mot, mais protéines, on va s'en servir, c'est sûr. Oui, dites-moi. Mais oui, excellente question, ARN. Donc ça, c'est notre point de départ, là, hein, l'ARN messager aujourd'hui. Et puis, l'ADN, pourquoi? Enfin, ça se ressemble, ces trucs-là. Ouais. Enfin, ça se ressemble, en tout cas, quand on les écrit. Ouais. Oh, il y en a qui connaissent des mots, là. Mais vous pouvez les dire, d'ailleurs. Ouh, Voilà, je vais demander un peu de réflexion. Puis de temps en temps, je vais vous demander, je vais vous demander l'option « je ne sais pas ». On aura le droit de dire aussi « je ne sais pas ». En l'occurrence, non, je ne crois pas, sauf que Jean-Yves, des fois j'utiliserai le joker Jean-Yves. Jean-Yves, tu sais toi si... Non, il ne sait pas. Donnez-moi encore des mots.
Je suis géographe.
Oui, je sais bien, enfin, peut-être que tu as entendu parler des ADN messagers. Oui, je vais vous donner...
On a entendu parler de ça avec le Covid, mais il y a peut-être d'autres utilisations et voilà, ça aurait été pas mal d'en savoir plus.
Oui, tout à fait. D'autres, au-delà du vaccin, du Covid et tout, c'est autres utilisations, enfin autres contextes, on va dire. En fait, je m'aperçois que j'ai presque pas besoin de faire la petite intervention parce que vous dites déjà tout là. Moi, je vais remettre dans l'ordre.
Pourquoi une certaine défiance envers les vaccins ARN messagers et pas les vaccins traditionnels ?
Ok. Donc différence entre les vaccins, vaccins traditionnels, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais vaccins ARN, ok. En fait, moi j'en sais rien, c'est vous qui allez me dire. Vraiment, c'est facile de faire une conférence comme ça. Alors les risques spécifiques à l'ARN messager, ok. Oui.
J'ai parié un petit groupe de mots. Matériel génétique.
Ok, matériel génétique.
Transmission.
Ouais. Oui.
Et donc du coup, ouais, patrimoine.
Transmission, enfin, patrimoine, ouais. Ouais, matériel autour. Patrimoine, ça me va. On met tout ça ensemble.
Oui, alors si on essaye de faire un peu un télo, on sait que ARN c'est acide ribonucléique. Mais une fois qu'on a dit ça, donc c'est un acide. Mais alors après, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur déjà l'ARN avant de parler de messager.
Parfait, c'est comme ça que je le voyais. Donc on est d'accord. Je vais me revenir encore avant. Je pense qu'on va commencer par cellules, parce que, bon, il y a cellules, ouais, bien sûr, les cellules. Mais finalement, c'est quoi les cellules ? On va y venir.
Ah, moi, j'avais une question.
Pardon. Couille. Pénétration cellulaire et pénétration nucléaire.
Wow. Ça devient technique, là. Alors, pénétration, transport. Ouais, c'est ça. On parle d'un transport, mais. Vous avez dit quoi ? Cellulaire et nucléaire. D'accord. Je sais pas quel mot. Pénétration, ça me paraît bizarre, mais bon, allez, je vais prendre vos mots. Pénétration. Oui, mais on n'utilise pas ce terme-là en biologie. Enfin, pas pour la même chose. Pénétration nucléaire ou cellulaire. Ok ? Je vous écoute, au fond.
Alors moi, c'était, peut-on vraiment parler de vaccin ? Parce que c'est l'argument qu'on a beaucoup entendu, ça n'est pas un vaccin, ça n'est pas un vaccin.
Ok. Est-ce que c'est un vaccin ce truc-là ? Je pense qu'on a fait le tour. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui, vous voulez rajouter ? Oui, attendez.
C'est une question peut-être pour la suite, au-delà de comment le corps le synthétise, comment on peut le fabriquer en laboratoire ? L'ARN, d'où il vient et comment on le fait ?
Je ne sais pas. C'est une machine. Fabrication, ok. Mais on en parlera, je ne vous donnerai pas les détails, mais on en parlera. Ok, eh ben on va commencer tout de suite. Ah non, encore une... Mais vous êtes déjà intervenu, vous ?
Ma copine, virus.
Virus ? Mais oui, excellent, virus. Mais il y a tout, c'est génial. Jean-Yves, tu as un public. Tu reviendras ? Oh non, encore, allez-y.
J'avais un dernier mot éventuellement sur transgénèse.
Mais... Transgénèse. Où est-ce que je le mets ? Je le mets ici, là. Ça veut rien dire que je le mets de travers, hein, c'est que je ne sais plus. Ouais, ok. Jean-Yves, tu voulais intervenir ?
Pas du tout. J'ai posé mon micro.
Ok, très bien. Donc, ok, il y a beaucoup de choses là. Vous me parlez de, d'ARN, la différence entre l'ARN et l'ADN, on va en parler évidemment, hein, c'est fondamental. Enfin, c'est fondamental, c'est important de le savoir, je pense, voilà, parce qu'on en parle souvent dans notre époque moderne. Où est-ce que ça se situe oui, dans une cellule. C'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans une cellule. Donc, on va regarder un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est l'ARN et l'ADN du matériel génétique qui a un rôle dans la transmission, qui peut avoir un rôle dans la transgénèse. Attendez, on va faire ça super, comme ça. Mais si, c'est juste qu'à Chambéry, à Annecy, on ne sait pas l'utiliser, c'est pour ça. Bon, attends, tu rigoles ou quoi? Ah oui, d'accord. Il y avait un bouton caché. Voilà, donc on continue. Message, bon, on va en parler. Message, c'est un terme humain qui peut être trompeur parfois. Transporteur, ah, ça je ne me souviens plus, transporteur. Quelqu'un, c'est qui avait dit transporteur? Bon, on y reviendra. Si jamais je n'adresse pas la question, vous me direz. Peut-être qu'on n'a pas le même terme. Virus, évidemment, on va en parler. Protéines, c'est carrément essentiel. Pénétration, hein. On a tout. On va commencer. Je vous propose, on commence par la cellule. Je fais un petit rappel pour la cellule. Il y en a, ça va les embêter parce qu'ils connaissent ça par cœur. Il y en a qui vont découvrir des trucs. Et voilà, c'est pas grave, hein. C'est comme ça qu'on va faire. On y va. Ah, alors voilà. D'abord, d'où ça vient? Il y a des gens qui aiment bien l'histoire des sciences. Cellule, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de Robert Hooke. Je me demande si c'était pas un drapier qui avait inventé je me tourne toujours vers Jean-Yves, qui est quand même mon maître à penser. Et, s'il fait comme ça, ça veut dire que c'est pas bon. Mais en tout cas, c'était un néerlandais en 1665. Mais si, je pense bien que c'est ça, c'est un drapier. Il devait voir l'épaisseur de ses fils de drap, et donc il a inventé des microscopes de plus en plus précis. Et à la fin, il s'est mis à regarder des pelures d'oignons ou des choses comme ça. Vous avez ici une image qu'il a dessinée après avoir regardé des cellules de plantes, de feuilles, je pense. Et il distinguait, bah, vous les voyez vous aussi, j'espère, des petites chambres. Donc il a appelé ça des cellules en référence à la chambre de moine. Donc cellula ou alors celle-là qui est petite chambrette. Voilà. Et donc il a appelé ça des cellules. Et depuis le temps, on appelle ça des cellules. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis, ce qu'on entend par cellule, ça n'a rien à voir avec évidemment les prisons, ou ni même avec les moines, mais une cellule, en fait, c'est un espace fermé, relativement autonome, au sein d'un environnement. Donc ces cellules sont séparées du reste de l'environnement par ce qu'on appelle une membrane, une bicouche lipidique, une membrane plasmique, là, ici. En 14, donc c'est pas très bien figuré, mais voilà, donc elle est séparée du reste donc comme on a dit, par des lipides, donc par des corps gras, et donc qui empêche par exemple ce qui est dans la phase aqueuse, ce qui est dans l'eau, ça empêche les choses qui sont dans l'eau de passer. Donc par exemple, le sucre ne passera pas naturellement, par exemple, hein, je prends un exemple au hasard. Donc ça c'est une cellule un peu classique, hein. C'est une cellule animale. Il y a une petite différence avec les cellules végétales, vous voyez qu'elles sont pas rondes, elles sont organisées, elles servent à fabriquer du bois et à faire une croissance végétale, alors que nous on est plus un peu plus tout mou comme ça, on est un peu plus rond. Voilà. Non, ça n'a rien à voir, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a au sein de cette cellule? Vous l'avez dit, ah non, vous ne l'avez pas dit, vous avez oublié de me dire noyau. Ah bah, mince. Oui, vous avez dit nucléaire. Oui, tout à fait. Ok, ça compte. Ok, un demi-point pour nucléaire. Ça marche. Ok. Donc, on a le noyau ici. Pourquoi noyau? Parce qu'il est, rond, il est au centre. Voilà. Mais bon, à part ça, il n'a pas grand-chose à voir avec un noyau, évidemment. Je vais passer sur nucléole, c'est trop précis. Ici, on a l'endroit où vont se produire les protéines à partir du code génétique. Donc là, je rentre déjà pas mal dans les détails. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore là-dedans? Voilà, notez juste que en numéro 3, c'est les petits points noirs ici, tout petits, que vous voyez peut-être pas ici, qui s'appellent les ribosomes. On va en parler aussi. Ça dit quelque chose à quelqu'un, les ribosomes? Oh, y a des gens qui disent oui. Oh, c'est génial. Ribosome, donc je vous rappelle, hein, sucre, zome, machin. Donc ribosome, c'est un machin en sucre. Ouais, c'est quand même très précis, la science. Effectivement, c'est en sucre. Ok. Et après, je ne sais plus de quoi je voulais vous parler, mais là, on a le contexte du noyau aussi, bien sûr. Dans le noyau, on a, évidemment, ce que tout le monde sait, on a les chromosomes. Hein, les chromosomes, et ça non plus on l'a pas dit, mais les chromosomes, eh bien, c'est fait essentiellement, ou plutôt la partie intéressante des chromosomes est faite d'ADN. Hein, et on va voir ce que c'est que l'ADN et pourquoi c'est intéressant. Mais il y a toutes sortes d'autres choses, hein, dans le noyau. Et les activités de la cellule se passent plutôt dans le reste de la cellule qu'on appelle le cytoplasme. Donc je vais utiliser ce terme, donc je le définis. Cytoplasme dans la cellule, c'est tout ce qui n'est pas le noyau. D'accord ? Il n'est même pas cité ici, c'est marrant. Ah, c'est dingue. Je ne sais pas qui a fait cette diapo, mais ouais, c'est moi. Donc on a le noyau ici, et les chromosomes et l'ADN sont à cet endroit-là. Et puis, les activités de la cellule, donc on va parler un peu des activités de la cellule, elles se passent dans le cytoplasme. Voilà, donc on a de nouveau ici, on a ici extrait le noyau, enfin en tout cas j'ai grossi le noyau ici, et dans le noyau on a... Pardon ? C'est un noyau ici, hein, en jaune là, avec des trucs verts, c'est le noyau, et dedans il y a les chromosomes, et il y a toutes sortes d'autres choses qui maintiennent, qui interrogent, qui réorganisent, voilà, des choses comme ça. Et puis donc ces chromosomes, nous par exemple on a 2x23 des chromosomes qui sont empaquetés dans ce petit noyau, c'est tout petit ça, hein, j'ai oublié de vous donner des idées de taille, mais c'est vraiment tout petit tout ça, et bien c'est constitué d'ADN. Alors on l'a dit, j'ai entendu tout à l'heure, acide désoxyribonucléique, hein, c'est ça, acide déoxyribonucléique. Nucléique, bah, parce que c'est dans le noyau, peut-être, je ne sais pas. Et on va voir pourquoi ribo et on va voir pourquoi déoxy. Là, je ne sais plus comment je voulais enchaîner. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Ici, on a l'ADN tel qu'on le voit, la double hélice de l'ADN. Pourquoi double hélice ? On va voir. Ici, on prend une simple hélice pour voir un peu de quoi il est constitué. Il est constitué de... Ici, le P avec des O autour, c'est ce qu'on appelle un groupement phosphate. Et donc, en fait, vous voyez que tout l'extérieur de l'ADN, c'est un groupement phosphate qui est chargé négativement, mais donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phosphate. Et ce n'est pas pour rien que un des engrais qu'on doit utiliser pour mieux cultiver, eh bien, c'est le phosphate. Parce que toutes les choses vivantes ont besoin du phosphate, notamment pour synthétiser son ADN. Et puis après on a ce machin truc, ce pentacycle ici, qui est un pentose, et qui est en pentose, ça veut dire que c'est un sucre, d'accord ? Donc il est connecté au phosphate par une liaison chimique. On a le pentose, le sucre, et ce sucre est connecté lui-même à ce qu'on appelle un produit chimique, d'accord ? Et qu'on vous a tous appris, ah oui, mais l'ADN c'est fait de 4 lettres. Non, c'est pas fait de 4 lettres, c'est fait de 4, essentiellement de 4 espèces chimiques qui sont connectées à des sucres. D'accord ? Donc ce sont ces choses-là. Et alors on leur a donné des noms, c'est pour ça qu'on dit que c'est ATGC, mais vous voyez bien que voilà, c'est des produits chimiques, hein, ici. Cytidine, guanosine, adénosine et thymidine. C'est leur petit nom. Et là, vous voyez en termes atomiques à quoi ça ressemble. Et puis ici, un petit dessin pour vous rappeler, si vous l'aviez oublié, et puis si vous avez des questions, pour en revenir dessus, qu'il y a une affinité de chacune de ces bases, C, G, A et T, pour une base symétrique. C'est-à-dire que le T va toujours avoir envie de venir faire des câlins au A, et le C au G. Et donc, on a une structure ici qui est en double brin, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces correspondances ici qui sont tout le long de l'ADN, avec un certain nombre d'avantages dont on va peut-être parler. Voilà, c'est clair pour tout le monde, l'ADN, acide déoxy, alors je vais vous donner pourquoi le nom déoxy. Ici, la question qu'on m'avait posée, c'est quoi la différence entre l'ADN et l'ARN ? Et je regarde le temps parce que je vois que je papote, c'est dingue. Non, ça va à peu près. Donc, excusez-moi, c'est l'anglais. Les anglais, ils parlent à l'envers. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Voilà, c'est DNA, RNA. En fait, c'est ADN, ARN. Voilà, la différence entre les deux. En fait, il n'y a pas tellement de différence. C'est ça qui est incroyable. Il y a une différence notable. C'est que l'ADN, on le trouve, en tout cas dans les cellules, toujours sous forme pratiquement toujours sous forme double brin, donc comme je vous ai dit, à parier, avec les A et les T et les G et les C qui se regardent les uns les autres. D'accord ? Ça en fait, une double molécule. Et qui dit double molécule, ça veut dire deux fois plus d'informations. Et ça, c'est vachement important. Surtout quand notre boulot, c'est de maintenir l'information au sein de la cellule et au fur et à mesure des générations. D'accord ? Donc là, déjà, on voit qu'on a deux fois moins de chances de perdre l'information si jamais elle venait à être perdue. C'est très important. Et donc l'ARN, lui, il est plutôt, comme on dit, monocaténaire. Je ne dis pas simple brin, parce qu'en fait, ça se met en boule, donc ce n'est pas un joli brin comme ça, comme on nous le fait croire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle monocaténaire. Alors que là, il y a deux brins, donc bicaténaire. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence ? Comme différence, autre différence, il y a ce dont le pintin machin dont je vous ai parlé là, le sucre, ici. Si vous regardez bien, est-ce que... Ah, on va jouer au jeu des 7 erreurs, sauf que là, il n'y a qu'une seule erreur. Quelqu'un trouve la différence entre le déoxyribose et le ribose ? Il y a deux CH. Ah, c'est OH.
Ouais.
Trop fort, elle est trop forte. Vous vous appelez comment ?
Agnès.
Agnès, elle est trop forte. Elle a tout de suite vu. Dans l'ARN, on utilise un sucre. Qui est le ribose, hein. C'est un pentasucre, à sucre, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et sur chacun des carbones, sur ce carbone-là, bah, y a un atome d'oxygène. Sur ce carbone-là, il y a deux atomes d'hydrogène. Ici, il y a un atome d'hydrogène plus un atome d'oxygène et enfin un atome d'hydrogène. D'accord ? Et la même chose sur celui-là. Alors que dans l'ADN, eh ben non. Ce carbone-là, il n'a pas d'oxygène, donc on dit qu'il est désoxylé, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est un ribose dont on a enlevé un oxygène, donc déoxyribose. Voilà, c'est tout bête. Et alors, c'est important ça ? Pas sûrement, Agnès dit pas sûrement. Donc, moi je suis d'accord, je suis toujours d'accord avec Agnès. C'est important dans le sens où ça change la réactivité. C'est-à-dire, vous savez que l'oxygène peut réagir avec toutes sortes de choses. Par exemple, quand on brûle une bougie, bah, c'est l'oxygène hein, qui est utilisé comme comburant. Voilà, l'oxygène est réactif. On dit d'ailleurs oxydation, enfin, il y a toutes sortes de réactions. Et donc, en fait, la présence de cet oxygène ici permet une augmentation des réactions avec l'environnement. Donc l'ADN va être considéré comme très stable chimiquement, alors que l'ARN, lui, il peut faire plein de trucs, il peut interagir avec son milieu, il peut provoquer des réactions, il peut subir des réactions, donc il se passe des choses avec l'ARN qui ne se passent pas avec l'ADN. Très bien. Bon, après, il y a d'autres différences que je ne vais pas évoquer maintenant, mais il y a des différences dans les bases, donc dans les lettres qui sont utilisées, ce n'est pas tout à fait le même code. Mais bon, ça, je vais peut-être passer comme détail. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres choses ? Bon, on va parler de messages après. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit protéines. Qu'est-ce que vous connaissez comme protéines ? Pardon ? Albumine, tout à fait, qu'on trouve dans les œufs, par exemple. Ouais, albumine. Vous en connaissez d'autres ? Souvent, les trucs en in, ça va être des protéines. Pas toujours, mais souvent. Les enzymes en général, pas toujours, mais la plupart des, pratiquement toutes les enzymes sont des protéines, tout à fait. Allez, ne soyez pas timide. Allez, donnez-moi-en une, puis je vous laisse tranquille. Hémoglobine, mais oui, c'est celle qu'on préfère. Hémoglobine, kératine, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est des. Vous êtes d'accord que ce n'est pas la même chose que l'ADN et l'ARN. Ce sont des protéines, ce sont d'autres choses dans la cellule et dans le vivant. Je vous ai mis. Alors, je vous rappelle, ici, on va avoir ce qu'on appelle un poly. J'ai perdu le mot. Un polymère, pardon, c'est un polymère. On dit un polymère. Donc, c'est une succession. Voilà, c'est comme si vous aviez un train avec plein de wagons. Et ces wagons, ici, là, pour le polymère d'ADN, ils ressemblent à ça. D'accord ? Alors que les enzymes, les protéines, ce sont aussi des polymères, mais c'est des polymères de quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas des nucléotides ou des phosphates ou des riboses, ce sont des acides aminés. Donc les wagons qui composent le train du polymère protéine, ce sont des acides aminés. Et vous voyez que ça ressemble à ça, c'est des suites de chaînes carbonées ou azotées avec une fonction acide. Ici, donc des acides aminés. Et donc quand on regarde au niveau atomique, voilà, ça ressemble à ça. Et donc, comme on l'a dit, hein, on connaît toutes sortes de... Nous, on connaît plein de protéines, et on leur a donné des petits noms. On a l'hémoglobine, dont vous avez parlé, elle est là. On a ici la somatotropine, c'est ce qu'on appelle l'hormone de croissance. On a le tropocollagène. Tropocollagène, c'est ce qui rend la peau assez élastique et assez fonctionnelle. Ici, on a la myosine. Myosine, ça, c'est une énorme protéine qui se trouve dans vos muscles et qui sert à contracter les muscles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire du sport si on a envie. Les anticorps, on parle des anticorps dans la protection contre le non-soi. Et ben, les anticorps, c'est aussi, en fait, là, il y a plusieurs protéines. Hein, c'est des trucs énormes. Les anticorps, c'est vraiment très très gros. C'est un assemblage de, je pense, de trois ou quatre chaînes polypeptidiques. Et puis Spike, vous connaissez Spike ? Bah oui, forcément. Spike, c'est une protéine aussi. Voilà. C'est une protéine parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des protéines dans nos cellules. Il y a tout le vivant qui est à base de protéines aussi, et les virus aussi. Donc ici, oui, effectivement, l'albumine, le lysosome, la kératine, la caséine, la luciférase. Ça, c'est une protéine, par exemple, qui fait la lumière dans les lucioles. Voilà. Donc il y a toutes sortes de protéines. Et donc, en fait, ce sont les protéines qui font les fonctions de nos cellules, qui font les fonctions de notre corps. Vous voyez que pour avoir des cheveux d'une certaine couleur, c'est la kératine qu'on va voir, c'est la kératine qui va créer une coloration du cheveu. Enfin, je pensais pas tout à fait comme ça, mais voilà. Globalement, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont les protéines qui vont donner notre phénotype et nos fonctions. Là, vous vous demandez vers où je vous emmène, on va très très loin. Et on a vu que notre héritage génétique, lui, il était dans les chromosomes. On est d'accord avec ça ? C'est-à-dire que la mémoire et la programmation de tout ce qui va être fait dans la cellule, c'est dans les chromosomes. Et les chromosomes sont dans le noyau. Et par contre, les fonctions, les ouvriers de la cellule, c'est les protéines, et elles sont dans le cytoplasme. Et elles n'ont pas de mémoire en soi, ou très rarement. Et donc, ça a été la grande question pendant longtemps, c'est comment l'information génétique est transmise à la cellule à partir de l'ADN et pour créer un certain répertoire de protéines. Alors est-ce que... Et donc, ça a été défini au XXe siècle essentiellement, et je vais vous raconter comment, par qui et comment ça a été fait. Mais globalement, ce qu'on a imaginé, et ce qui est en fait le cas, et c'est ce schéma que je vais reprendre à la fin, pour résumer, parce qu'on n'est pas obligé de connaître tous les détails, mais globalement, on a ici l'ADN, les chromosomes, qu'on appelle le génome. Il y a une machine qui va, comme je vous l'ai dit, il est fait d'ADN, qui n'est pas réactif, et qui est en plus isolé au sein du noyau pour ne pas être modifié, pour ne pas être touché. Et donc, par contre, on a besoin de l'information qu'il porte et qui va donner les protéines. On en a besoin dans le cytoplasme. Et donc, en fait, il existe une machine à photocopier l'ADN, dont je vais pas vous embêter avec les noms, et qui va, au lieu de prendre tout le livre, et ben on va prendre juste une page qu'on va photocopier. On va appeler ça l'ARN messager. On va le sortir du noyau et on va l'amener dans le cytoplasme, où il y a une usine, ici, qui va être chargée de lire le message et d'en déduire ce qu'il faut faire pour la cellule, donc très souvent construire une protéine. Et les protéines, vous rappelez, c'est... Donc si vous vous souvenez bien, l'ARN messager, c'est un train de wagon de G, de A, de T, de C. Et ici, les protéines, c'est un train de wagon d'acides aminés. Et en quelque sorte, ici, c'est la gare où on va transformer les wagons d'ARN en wagon de protéines. Là, je prends des images un peu... Mais bon, voilà, si ça vous explique... S'il y a certains qui ont du mal à saisir le concept, je vais l'expliquer encore après avec un peu plus de détails. Voilà. Je suis rentré ici dans les détails plus intimes et plus, disons, plus fonctionnels, où on a ici l'ADN, le chromosome. Vous avez la photocopieuse ici. Ça s'appelle, dans la cellule, ça s'appelle la transcription. On va prendre l'ADN et on va le copier, on va vraiment le photocopier en ARN. Et cet ARN, il va être envoyé dans le noyau. Et c'est pour ça qu'on l'appelait l'ARN messager. Parce qu'en fait, c'est le messager. On prend le message ici et on l'envoie ailleurs. Donc c'est lui le messager. C'est le marathonien qui fait le boulot. Voilà. Et donc, cet ARN messager se retrouve dans le cytoplasme. Et ici, il y a ce que j'ai appelé la gare de traduction d'un code en un autre, qui s'appelle le ribosome. On en a parlé tout à l'heure. Il y a deux personnes au fond qui connaissent le ribosome. Donc, il est là. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le ribosome, on peut s'arrêter tout de suite. Moi, c'était mon domaine de recherche quand j'étais au CNRS. Le ribosome, c'est ma passion. Mais après, tous les autres s'en moquent un peu. Donc, on va peut-être passer à autre chose. Le ribosome, le voilà. On a le messager, l'ARN messager. On a une énorme, ça c'est une énorme machine. Hein. Ça c'est la taille d'un petit virus. C'est vraiment très très gros. Hein. Et puis on a toutes sortes d'autres choses qui viennent regarder quel est le train de wagon de l'ARN et qui construisent après le train de wagon de protéines. Vous voyez ? Et donc il y a ici ce qu'on appelle une traduction d'un code en un autre. Alors la traduction, tac. La traduction, c'est le fameux code génétique dont on parle tout le temps, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Vous rappelez que l'ADN ou l'ARN, c'est fait de ces quatre espèces chimiques. Là, G, alors on avait dit T, mais là, ça s'appelle U, mais c'est pareil pratiquement, à quelques exceptions chimiques. On a des G, des U, des G, des C, des A, des U, etc. Et ça, c'est un code. Un peu comme quand vous lisez un livre vous-même et que vous voyez E, A, U, c'est un code, parce qu'en fait, dans votre tête, ça fait O. Et si vous le lisez, ça fait O. Donc c'est bien un code. Et bien là, c'est pareil. Pour le fameux ribosome, là, la machine à traduire, quand il lit G, U, G, ben il se dit, ben ça veut dire qu'il faut incorporer un acide aminé qui s'appelle la valine. Donc lui, chaque fois qu'il voit G, U, G sur l'ARN, il met dans la protéine, il met une valine. S'il voit C, A, U, il met une histidine. Et toutes sortes, voilà, ça, c'est un système. Alors ça, c'est universel. C'est les virus, les bactéries, les archébactéries, les plantes, les champignons, vous, moi, tout le monde a quasiment le même code, parce qu'il y a eu des petites divergences par moment, mais globalement, quand on a, si la façon de lire ce code, c'est quand on a un petit bout de message, donc trois lettres qui commencent par un U, puis un U, puis un U, et ben ce sera une phénylalanine. Si on a un U et un G, ce sera une leucine. Etc. On a ici les 20 acides aminés du vivant. 20 acides aminés, c'est tous les wagons dont on a besoin dans les protéines, à quelques exceptions près, et ça suffit à faire toutes les merveilleuses fonctions dont on est pourvu. Voilà. Donc là on a été un peu loin. Je pense que j'en ai perdu 2-3, mais n'hésitez pas à poser des questions, puis de toute façon, ça se retrouve sur... ça peut se voir un petit peu en détail. Mais globalement, ça, c'est le code génétique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jean-Yves? Je regarde mon maître à penser. 13h03, on avait dit qu'on s'arrête dans pas trop longtemps pour pouvoir discuter, c'est ça? Alors je vais accélérer un peu, parce que là j'ai pris mon temps pour vraiment vous emmener, et puis je vais vous présenter Covid, voilà, non pas du tout, c'est pas Covid, c'est SARS-CoV-2, c'est le virus. Covid, c'est la maladie qui est créée par le SARS-CoV-2. Donc voilà, SARS-CoV-2, c'est sympa, hein, bon, c'est une illustration, hein. Tout ce que je vous ai montré, c'est des illustrations vraiment... là, voilà, les couleurs sont fausses et tout, c'est pour faire joli. Donc là, vous avez Spike. Ici, vous avez l'enveloppe virale voilà, qui est faite et de protéines et de lipides. Et puis à l'intérieur, lui, il n'a pas vraiment de chromosome. On appelle ça son génome. Et son chromosome, lui, il est fait d'ARN. Lui, les virus sont un petit peu, peut-être, un petit peu ancestraux. Et voilà, ils ont décidé de pas utiliser l'ADN. Enfin, ils ont rien décidé du tout. Hein. C'est l'évolution qui a décidé pour eux. Mais globalement, ils se débrouillent avec de l'ARN. Voilà. Et donc, le virus aussi, il a des protéines, il a des lipides, il a des acides nucléiques. Mais par contre, ce qu'il a pas, lui, il a pas. Donc, on peut dire que peut-être c'est son noyau ici, je sais pas. Mais il a pas de cytoplasme. Il a pas de ribosome. Il n'a pas toutes les protéines dont on a besoin, il n'a pas la photocopieuse, il n'a pas toutes ces choses-là. Donc c'est un virus, c'est un parasite. Son boulot, ça va être d'infecter une cellule plus complexe. Ça peut être une bactérie, ça peut être nous, ça peut être un pangolin. Et donc il va pirater la cellule hôte pour faire tout le boulot dont lui s'est débarrassé finalement. Il n'a pas besoin. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est une vision finaliste. Ce qui va être important dans le cycle d'un virus, c'est de reproduire son génome et de sortir de la cellule et d'aller infecter d'autres cellules. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est la même image que tout à l'heure, sauf que donc, on continue, nos cellules, quand elles sont infectées, elles continuent à faire leur message à eux et à traduire leur message à celles dont elles ont besoin. Mais il y a aussi le virus qui s'est invité, qui est rentré, qui a injecté l'ARN du virus, et paf, il rentre dans la gare de traduction, ici, dans le ribosome. Et puis, ce message qui vient plus de notre noyau, c'est un message exogène, c'est un message pirate, si on veut, eh bien, il est injecté dans le ribosome et il va produire la protéine qui correspond à ce message et qui va donc être le virus. Il y a plusieurs messages, en fait, là. Il y a beaucoup de protéines qui sont codées, il y en a peut-être une quinzaine qui sont codées par le virus. Voilà, et donc il y aura une quinzaine d'ARN messagers qui sont injectés par le virus et donc on va fabriquer des petits virus. Voilà. C'est un beau piratage. Je regarde le tableau parce que je me suis perdu. Je pense que j'ai nucléaire, cellulaire. On va en reparler peut-être au moment des questions. Mais déjà, on a. Alors là, il y a pénétration nucléaire, cellulaire. Mais on voit que la pénétration cellulaire, le virus, lui, se débrouille avec Spike. Et puis, la pénétration nucléaire, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt une exportation, comme on dit. Voilà, on a, je vous ai un peu parlé du virus. On n'a pas encore parlé de transgénèse. Ah, le vaccin. On peut peut-être parler du vaccin. Le vaccin, qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir que c'est là où on s'est beaucoup agité. Mais regardez le vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Mais au lieu d'introduire un virus, on introduit donc un vaccin, on va en parler. Et surtout, qui ne contient pas tous les ARN du virus, mais juste un seul ARN. Là, en l'occurrence, l'ARN de Spike, qui va être injecté, qui va être pris en charge par le ribosome cellulaire et qui va faire beaucoup de petites protéines spike à la surface de mes propres cellules. C'est ma cellule qui va construire la protéine spike. Donc admettons, une cellule musculaire qui tout à coup va se mettre à faire du spike et le système immunitaire va dire « Mais c'est quoi cette cellule-là qui fait du spike ? Là, moi, je ne connais pas spike. » Et hop, il va commencer à reconnaître cette drôle de bête hybride qui est un peu moi, mais aussi qui est beaucoup spike. Et donc, ça va être considéré comme quelque chose, comme une attaque de l'extérieur, parce que ce n'est pas quelque chose que le corps a appris à reconnaître. Et donc, au contraire, ça va être quelque chose que le corps va se préparer à reconnaître en défense. C'est ce qu'on appelle une vaccination. Sauf que là, l'antigène présenté, au lieu d'être, disons, un virus qui a été inactivé par la chaleur ou qui a été tué, ou une protéine du virus, et bien c'est ma propre cellule qui présente l'antigène au reste du corps. D'accord ? Donc, en quelque sorte, on produit son propre médicament. C'est rigolo, ça. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça, c'est incroyable. Voilà. Et on parlera un petit peu plus tard, parce que c'est ce que m'a demandé Jean-Yves, mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. On peut imaginer, dans vos cellules, injecter un ARN à définir. Ça peut être un ARN de kératine. Admettons que je sois un peu chauve, j'ai envie de kératine. Voilà. Non, évidemment, ça ne marche pas comme ça et on verra pourquoi. Mais globalement, on pourrait prendre notre ARN et l'injecter dans nos cellules et le faire synthétiser. Vous remarquez que ce qu'on fait à chaque fois, je vais prendre un terme de généticien, on fait du gain de fonction. C'est-à-dire qu'on ajoute une fonction. On n'a pas de moyen, ou alors c'est un petit peu tordu, on n'a pas de moyen avec ce système de facilement enlever une fonction. D'accord ? Ça, c'est assez important. Alors, je vais faire une mini-conclusion rapide avec des diapos qui sont beaucoup moins colorés qu'avant, mais que du coup, je vais pouvoir aller plus vite. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau, l'ARN ? En fait, non, l'ARN, ça existe depuis l'apparition de la vie sur Terre, quelque chose comme 4 milliards d'années, 3 milliards et demi. On pense même que c'est l'ancêtre de l'ADN. Donc, l'ARN, oui, effectivement, dans les médias, c'est nouveau, mais ça existe depuis très, 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 très longtemps. C'est probablablement même, c'était les premiers principes vivants sur Terre. C'est-à-dire avant même qu'il y ait des cellules, avant même qu'il y ait ce que nous on appellerait de la vie, il y avait sans doute des molécules d'ARN autoréplicatives basées sur des sols argileux qui étaient capables de se reproduire et de refaire des molécules d'ARN. Donc les premiers principes autoréplicatifs sur Terre, il y a 4 milliards d'années, sans doute. Donc ça, vraiment, ça existe depuis longtemps. Pourquoi c'était pas l'ADN ? Parce que l'ADN, c'est pas réactif. L'ADN, ça sait pas faire. Alors que l'ARN, ça sait faire des trucs. Donc ça, c'est sur Terre, 4 milliards d'années. Et puis, dans la science, on l'a identifié en 1895, et depuis 1895, il y a plus de 30 prix Nobel hein, qui ont été donnés à des gens qui étudient l'ARN. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on connaît très 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 bien. Voilà. Et notamment en 1965, Cocorico, prix Nobel à Jacob, Monod et Lvov pour la découverte de l'ARN messager dans le cas dans une bactérie. C'était l'opéron lactose. Et puis l'ARN, c'est pas que l'ARN messager. On connaît plein d'autres ARN. L'ARN ribosomique qui constitue le ribosome dont on a parlé. L'ARN de transfert qui accompagne le ribosome pour faire sa traduction. Des autres trucs un peu exotiques qui s'appellent les snow-RNA, les ARN silenceurs, les micro-ARN, les ribosymes, les CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est une protéine, mais Cas9, c'est un ARN. Vous en avez sans doute entendu parler. Qui a entendu parler de CRISPR-Cas9? Il y a au moins 3 personnes. Donc voilà, ça, c'est un autre chemin de la thérapie génique qui pourrait être utilisé plutôt que l'ARN. Je vais voir si on aura le temps d'en parler. La thérapie ARN, donc là les vaccins, est-ce que c'est nouveau? Ben, en fait c'est étudié dans les laboratoires depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans on se dit, ben, on n'a qu'à utiliser l'ARN, ça marche super bien, enfin ça devrait marcher super bien. Et en fait depuis 30 ans ça ne marche pas, on n'y arrive pas. L'ARN c'est une molécule instable, comme je vous ai dit, elle est très réactive, donc elle est instable. On n'arrivait pas à la rendre immunogène. On n'arrivait pas à la produire efficacement, on n'arrivait pas à en produire des grosses quantités, ça coûtait très très cher de fabriquer l'ARN. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'arrivait pas à l'emmener vers les cellules. Comment? Parce que quand on vous injecte quelque chose sous la peau, ben voilà, c'est dans le tropocollagène, comme on a vu tout à l'heure, mais après il faut l'emmener vers les cellules, on ne savait pas comment le faire. Donc depuis 30 ans, il y a des chercheurs avec beaucoup beaucoup de développement qui ont essayé de faire des vaccins ARN ou des thérapies ARN. La plupart des grosses boîtes ont abandonné, je pense en 2012-2013, ils disaient, mais c'est pas la peine, là, ça fait 25 ans qu'on travaille dessus, ça coûte trop cher, on arrête. Il y a deux petites boîtes qui ont continué à bénéficier de financements américains de la défense militaire, la DARPA, qui ont continué à travailler dessus, et c'est Moderna et BioNTech. Ah, donc vous avez des réponses, là, peut-être, à certaines questions. Une question avec un micro, peut-être, vous êtes Jean-Yves?
Dites, on n'arrivait pas à le rendre immunogène, ça veut dire quoi concrètement?
Mince, j'ai employé un terme que je ne sais pas définir. C'est-à-dire que, d'abord, comme je vous ai dit, on n'arrivait pas à l'envoyer dans les cellules. Et puis, une fois qu'on l'a envoyé dans les cellules, il faut quand même stimuler la réaction immunitaire. Il faut faire venir des globules blancs près des cellules où on a du spike. Il faut que ça ressemble à une attaque virale. Parce que sinon, bah, on achète des trucs et puis de temps en temps, il y a un petit globule blanc qui passe qui se dit « Oh, ça, c'est pas normal. » Voilà, mais c'est pas une vraie réaction. Il y a certains qui, quand ils se sont fait vacciner, ils ont eu mal. Bah, ça, c'est la réaction d'inflammation immunitaire. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, arrêtez de me couper, c'est pas possible. Je perds le fil. Non, c'est très bien que vous posiez des questions. On a fait plein d'essais depuis ces 30 ans, des essais de vaccins sur Zika, sur le cytomégalovirus, donc l'herpès globalement, sur la grippe, et en fait ça ne marchait pas. Donc vraiment les boîtes pharmaceutiques se sont arrêtées, juste ça ne marchait pas, puis de toute façon on se disait, bon, on n'a qu'à faire comme on a toujours fait, ça marche très bien, un virus contre la grippe c'est pas très cher, on n'a qu'à continuer comme ça. Et puis dans les 30 dernières années, on a eu plein de révolutions. La révolution génomique, on a commencé à séquencer plein de génomes, on a commencé à utiliser plein d'ADN, et puis on a commencé à être très 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 bon à faire des synthèses artificielles d'ADN d'abord, et puis d'ARN. Maintenant, pendant la nuit, là, je peux vous synthétiser un ARN sans problème, quoi. Ça me prend 24 heures pour le synthétiser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu la mise au point de nouveaux trucs qui s'appelaient des nanoparticules lipidiques. Donc c'était des nouvelles choses, et on s'est aperçu qu'en fait ces nanoparticules lipidiques, c'est-à-dire en fait des toutes petites gouttelettes de graisse, en fait pouvaient contenir, on pouvait leur mettre des ARN avec, et que ces nanoparticules lipidiques, et ben en fait elles allaient se mettre près des cellules et être incorporées dans les cellules. Donc ça c'était très pratique, et je crois je me souviens plus de l'année, mais voilà, un jour ils se sont dit, bah, on n'a qu'à essayer, on a plein d'ARN là, nanoparticules, allez on va essayer ça. Et il se trouve qu'en plus, pour répondre à votre question, ces nanoparticules lipidiques sont extrêmement immunogènes, incroyable. C'est pour ça que quand on s'est fait vacciner, si on a été vacciné contre la Covid, voilà, c'était un peu douloureux, alors qu'il n'y avait pas d'adjuvant, il n'y avait pas de sel d'aluminium, il y a juste des nanoparticules lipidiques, je crois, et l'ARN. Mais c'est très immunogène, ça provoque une réaction. Depuis 30 ans, là, on a tous les vaccins Zika, CMV, grippe, etc. Les essais cliniques de phase 1 et 2 avaient déjà été faits. Donc quand il a fallu tout à coup faire un essai avec contre la Covid, tout ce qui était précaution d'usage avait déjà été fait. Parce que moi, au début, je me suis dit, mais attendez, là, il y a le Covid, 6 mois après, on a un vaccin, mais c'est quoi cette histoire? Normalement, il faut des années et tout. Non, en fait, le boulot avait déjà été fait avant. Qui avait été financé de manière très, très, très intense par les Américains au sein d'un programme qui s'appelle la DARPA. Et puis, bien sûr, il y a eu l'urgence de la pandémie et un gros afflux d'argent à ce moment-là. Donc, voilà. Vous voyez qu'en fait, certains qui ne seront pas d'accord avec le terme, mais c'est un coup de bol, en fait. C'est les planètes qui sont alignées au bon moment. Ça arrive, des fois. Et donc, ça a permis le développement de ces vaccins. Après, ça se discute, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est développé. Après, on va parler d'autre chose que les vaccins, la thérapie ARN. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Alors oui, parce que c'est la première fois qu'on s'injecte de l'ARN et puis qu'on demande à notre corps de fabriquer un truc qui va servir à nous, alors pas à nous guérir, mais en tout cas à nous protéger. Et l'avantage, c'est que ces vaccins, on peut les produire en quelques semaines. Je crois que la séquence du SARS-CoV-2 a été publiée par les Chinois et 4 jours plus tard, Moderna avait l'ARN prêt à être injecté. C'est incroyable, c'est juste incroyable, on n'a jamais vu ça. On a toutes sortes de possibilités sur la thérapie ARN messager qu'on va voir se développer, c'est ce qu'on appelle les vaccins multiplex. Par exemple, je peux mettre plein d'ARN messager, une vingtaine d'ARN messager. Je ne sais pas si vous savez, mais les vaccins contre la grippe, on se dit toujours, tiens, l'année prochaine, peut-être qu'on va avoir cette grippe-là, H5N1, H9, machin truc. On va peut-être préparer ces antigènes-là, donc produit des protéines, produit des vaccins, c'est super compliqué. Non, là, on n'a qu'à prendre 20 ARN messager de souches potentielles différentes, on les mélange tous, on se s'immunise grâce à ça, et puis voilà, ça peut être fait en 3 semaines. Donc c'est intéressant si on a envie d'être vacciné efficacement contre la grippe. La grippe, c'est quand même une sacrée maladie pour certains. Je vais passer sur les vaccins auto-amplifiés, ça va m'emmener trop loin, mais on peut imaginer, vu que l'ARN, c'est une molécule dont on peut faire des photocopies, on peut imaginer un vaccin qui va s'auto-amplifier dans nos cellules pendant longtemps. On a parlé de patch d'ARN diffusant, donc on se met un patch et puis on pourra se vacciner sur la durée. On n'aura pas besoin de rappel tout le temps, on sera immunisé sur la durée. Et puis des vaccins contre le cancer, donc dont on pourra peut-être parler. Et puis je vous ai parlé de gains de fonction, donc rajouter des fonctions aux cellules. Je crois qu'il y a un essai clinique de phase 2 sur la surproduction de cytokines. Cytokines, c'est des protéines qui sont un peu... Qui détruisent les cellules, qui les tuent. Et donc, il n'y a qu'à injecter des ARN de cytokines dans des tumeurs. C'est même une phase 3 qui se prépare. Des cytokines injectées dans la tumeur. Voilà. Ça, ou de la chimiothérapie. C'est tout aussi... ce serait plus ciblé, sans doute, au niveau local. Voilà. Et au-delà du vaccin, et ça on va en discuter maintenant, donc comme je vous dis, il faut un gain de fonction, donc c'est pas forcément, ça s'adapte pas à tout. Les nanoparticules lipidiques sont très immunogènes, donc ça c'est génial pour le vaccin, mais si par contre vous voulez faire autre chose avec, vous allez être couvert de réactions et ça va perturber très fortement le fonctionnement. Donc finalement c'est pas une bonne chose, c'est très bien pour les vaccins, c'est pas bien pour les autres choses. Et puis de toute façon, il faut redéfinir ce qu'on appelle le véhicule ou le vecteur. Si par exemple je veux cibler des cellules du foie ou des cellules du poumon, je ne vais pas faire ça du tout de la même manière. Pour aller apporter des ARN messagers au foie, je crois qu'il y a des essais cliniques pour les faire porter par des sucres. Le foie a une affinité pour le sucre, les sucres sont transportés vers le foie. Donc si on met des ARN messagers avec des sucres, on espère qu'ils vont aller jusqu'au foie. Ou alors, si c'est pour traiter des cellules des poumons, on peut penser à un inhaleur, on peut penser à des aérosols, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas facile. Il y a encore des années et des années de développement pour pouvoir utiliser l'ARN messager autrement que pour un vaccin. Et puis sinon, on a ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on on prend de mes cellules, par exemple des cellules de la moelle, on les cultive dans une boîte de pétri, on leur ajoute un ARN messager, et puis on me remet les cellules. Voilà, ça, ce serait une des façons de le faire, surtout avec les cellules de la moelle, parce qu'elles ont tendance à se cibler et à retourner à la moelle quand on les injecte dans le sang. Voilà, donc il y a ce type de possibilité. En gain de fonction, il y a des essais cliniques qui sont en cours pour stimuler la revascularisation après un infarctus. C'est-à-dire injecter des ARN messagers de facteurs de croissance nécessaires à la vascularisation, donc pour des veines ou des artères. Et puis des facteurs de croissance osseux aussi, qu'on pourrait injecter des ARN messagers dans les os pour stimuler la croissance des os, par exemple. Et puis, on a toutes sortes d'autres ARN, et je vais m'arrêter là. Il y a le CRISPR-Cas9, qui permet d'aller... C'est un ARN qui permet de casser l'ADN, donc et après de le réparer, et donc de le changer, donc de faire des mutations. On a les siRNA, qui permettent de rendre muets certains ARN messagers. Donc on peut, là, faire de la perte de fonction, donc c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en route. Et puis, on a ce qu'on appelle des aptamères ou des riboswitch qui amènent des fonctions encore différentes. Par exemple, on pourrait se transformer en extraterrestre fluorescent avec ce truc-là. Voilà, par exemple. Et là, je vous ai mis juste une belle image pour terminer. Ça n'a pas d'intérêt particulier, mais c'était pour me rappeler qu'il fallait que je m'arrête ici. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop... C'était un peu improvisé. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions, mais sinon, on pourra y revenir. Jean-Yves.
Merci beaucoup Guillaume, il nous reste encore 10 minutes donc, pour échanger, débattre si besoin. Donc j'ai le micro, hein, le bâton de parole, donc n'hésitez pas à me faire un petit signe, hein, ou à Guillaume qui va s'approcher de vous.
Il y a la collègue d'Agnès qui va nous poser une question.
Merci, oui, la copine. Pourquoi il y a des virus qui mutent, contre lesquels on a du mal à se protéger, et d'autres qui ne mutent pas, comme l'hépatite virale où le vaccin fonctionne, alors que la grippe, on recommence chaque année, et que le sida, on n'a toujours pas trouvé.
Oula. Alors, pourquoi il y a des virus qui mutent? Alors, il y a toutes sortes de questions pour lesquelles... il y a toutes sortes de raisons. D'abord, il faut voir ça comme une population, les virus. Et donc, plus la population est importante, plus la chance qu'il y ait une mutation qui arrive, il y a plus de chances que ça arrive. Donc là, avec une pandémie mondiale, le nombre de mutations, on appelle ça le paysage des mutations qui peuvent être explorées, et donc les plus embêtantes de type, celles qu'on a subies, genre Omicron, des choses comme ça, voilà, elles ont une plus grande chance d'apparaître, voilà, parce que la population est énorme, et le nombre d'infections est énorme, et la présence du virus chez des gens qui ne sont pas forcément malades ou qui sont légèrement malades, est énorme, avec une forte réplication et une contamination. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. C'est le cas pour la grippe, c'est le cas pour le SARS-CoV-2. Il y a d'autres virus qui sont moins transmis ou qui sont moins abondants dans nos cellules. Donc, ça peut avoir un rôle. Le fait que ce soit un virus ARN, c'est un très, très gros effet parce que l'ARN est très réactif et donc va avoir tendance à subir des mutations. Voilà. Et puis après, des fois, il n'y a juste pas d'explication. On ne sait pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. Si, alors les virus ARN, oui, sont de notoriété, ont tendance à plus muter. Tout à fait. Ouais. Non, ils sont moins stables génétiquement. Oui.
Bonjour. Est-ce que les technologies que vous avez présentées pourraient être utilisées pour lutter contre les maladies auto-immunes, enfin pour guérir dans le cas des maladies auto-immunes?
Oui. La réponse est oui, parce que je l'ai lu avant d'arriver, mais je ne me souviens plus exactement. Oui, il y a des projets pour lutter contre les maladies auto-immunes. Je pourrais retrouver la référence et vous la faire parvenir si vous voulez. Mais de toute façon, c'est en phase 2, donc c'est très préliminaire. Mais il y a des projets dans ce sens-là, tout à fait.
Merci.
Bonjour, merci. Vous nous avez présenté l'ARN, moi qui ne connais rien du tout. Oui, c'était clair. Après, il y a des mots que je ne vais pas retenir. Non, je vous le dis très clairement. Ni les graphiques, même s'ils sont beaux. Non, voilà. Ce que je voulais vous dire, vous avez donc démystifié, peut-être dédiabolisé. Non, parce que je vais vous le dire pourquoi. En fait, pourquoi d'autres scientifiques ont un avis différent et surtout pourquoi on nous balançait des messages comme quoi ça pouvait être nocif pour nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'autre côté des choses si y a un autre côté ?
Tout à fait, d'accord. Quels sont les arguments contre la vaccination ARN ? C'est ça un peu la question ? Ouais. Alors les arguments que moi j'ai entendus, et avec, j'ai discuté d'ailleurs avec les gens qui avançaient ces arguments, parce que je voulais savoir, moi je ne suis pas virologue, je ne suis pas immunologiste, donc voilà, je connais très bien le ribosome, mais ce n'est pas ça qui va m'aider. Beaucoup de gens ont dit, on fait un gain de fonction, on introduit une nouvelle fonction dans les cellules, ça peut être vraiment un gros problème. En plus, c'est un, même si ce n'est pas de l'ADN, c'est quand même une information génétique. Elle pourrait être copiée, elle pourrait être rétrophotocopiée en quelque sorte, elle pourrait être retransformée en ADN et paf, ça sauterait dans nos chromosomes. Donc ça, c'est un problème. On balance un petit bout de chromosome de virus, chromosome ARN, mais chromosome cependant. Qu'est-ce qui se passe si ça rencontre un autre virus? Si par exemple ce jour-là, le jour où vous êtes vacciné, vous avez aussi la grippe, est-ce que tout à coup on ne va pas avoir un hybride de virus de grippe avec un bout de spike et ça devient juste incroyable, ça devient horrible, voilà. Donc ça a été un certain nombre d'arguments. On ne sait pas ce qui peut arriver, on ne connaît pas tout. Mais globalement, les arguments contre ce type d'événement sont plus... c'est pas qu'ils sont plus probables, c'est que en fait le fait que ces événements arrivent sont très peu improbables pour des raisons scientifiques que je vais avoir du mal à convier maintenant. Mais par exemple, si on sait que d'abord ce qu'il faut bien voir quand on vous injecte un ARN messager de virus qui porte que spike, d'accord, effectivement c'est un ARN messager qui ressemble à un petit virus peut-être, et encore que non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Et puis il vient dans les cellules, et puis il fait exactement ce que fait le virus. Il fait du parasitage de ribosomes, là, de gare, et puis il produit spike. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas vacciné et que vous attrapez la Covid? Eh bien, il se passe la même chose. Il se passe même la même chose de manière plus grave, c'est-à-dire beaucoup plus d'ARN messager de spike. Voilà, donc comparativement, être contaminé par la Covid, c'est comme être vacciné, mais en bien pire. Ouais, bon, ça c'est déjà un argument qu'on peut présenter. Et si par exemple on dit oui mais l'ARN il peut s'intégrer dans nos chromosomes et tout, oui mais enfin les virus ils font ça aussi. Enfin ils font ça. Il y a beaucoup de virus qui ont fait ça par le passé, plus tellement maintenant, mais voilà, il y a des virus qui le feraient. Ils sont fabriqués pour le faire. Le SARS-CoV-2 n'a pas vocation à venir dans nos chromosomes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme argument encore? Le fait que ça recombine avec d'autres virus, très peu de chance. Très très peu de chance. Il faudrait que vous soyez contaminé par un virus du pangolin ou de la chauve-souris en même temps. Non, franchement. Et encore, ça aurait du mal à fonctionner. Et encore, ces virus-là, ils auraient déjà un spike. Donc, parce qu'il faut. On ne peut pas juste mélanger des bouts d'ADN. Il faut qu'ils se ressemblent. Donc, il y a toutes sortes d'arguments comme ça. Je ne sais pas si j'ai dit un peu. Oui.
Guillaume, il nous reste 2 minutes. Je pense qu'il faut qu'on se dirige vers le mot de la fin.
Juste rapidement sur les quantités produites par le ribosome. Est-ce que 1 ARN égale 1 une protéine ou est-ce que...
Alors, c'est hyper variable, mais non, c'est un facteur démultiplié. Un ARN peut... Alors les ARN sont très peu stables, ce qui était aussi un argument vers la vaccination. Les ARN sont très peu stables, mais quand ils sont pris en charge par les ribosomes, ils sont stabilisés. Et oui, un ARN messager, c'est très variable en fonction de toutes sortes de conditions. Mais en général, c'est démultiplié. Un ARN peut être traduit 100, 1000, 10 000 fois. Je ne suis même pas sûr que ça a été quantifié. De toute façon, chaque ARN va être différent. Voilà. Et voilà le mot de la fin, mais j'ai pas de mot de la fin.
Quel est le message qu'on peut rapporter pour cet après-midi?
Ah, j'avais pas préparé ça. Le message, en fait, c'est que il y a eu un peu un alignement des planètes, comme je disais, que ce qu'on nous a proposé, c'est quelque chose qui était prévisible, qui était étudié, qu'on essayait de faire. Et il se trouve que, un peu par chance, ça a super bien marché au bon moment. Et que maintenant, il va falloir revenir à des recherches un petit peu plus posées, un peu plus tranquilles, et puis voir qu'est-ce qu'on peut développer avec ça, qu'est-ce qu'il est urgent de traiter. Ce sont des traitements qui sont potentiellement beaucoup moins chers. Et donc peut-être qu'on va pouvoir aussi adresser des maladies, ce qu'on appelle des maladies négligées, dans les pays du Sud, par exemple. À voir. Mais tout est ouvert maintenant. Jean-Yves, à toi.
Guillaume, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à te remercier chaleureusement.
Merci à vous.
On peut applaudir Guillaume Stahl. Donc, comme il a aussi la casquette de directeur de la Turbine, donc je vous invite à découvrir le Centre de Culture Scientifique d'Annecy, hein, qui se trouve à Crangevrier, et donc il y a de très belles expositions, une sur le sport en particulier. Ce qui me permet de vous annoncer quand même le prochain programme, puisque dans un mois, le 2 février, nous allons parler de sport avec un chercheur de LIBM. Donc nous parlerons de la fatigue. Sinon, dans l'actualité, nous avons toujours l'exposition Glacier. Et ce week-end, ce samedi à 15h ici même, il y aura une conférence de Christophe Schex qui va nous parler des impacts du réchauffement climatique en montagne et dans les Alpes en particulier, et en Savoie plus précisément. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Et Guillaume Stahl, encore merci pour cette brillante intervention. Merci.